Et donc, dans cet ordre des choses, analyser successivement le problème posé par la conscience juive et grecque sur le plan historique, sur le plan psychologique, sur le plan de la philologie et du langage, et finalement sur le plan du mythe, de l'exégèse, des traditions orales. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre liste de conférenciers, nous avons donc décidé de commencer par un aperçu de la conscience historique sur les rapports entre juifs et grecs. Et par la suite, demain, ce sera mon tour de faire une communication sur le problème de la liberté et du déterminisme, c'est-à-dire du rapport entre la pensée hébraïque traditionnelle et la philosophie grecque dans la théorie psychologique de Maïmonide. Jeudi, nous aurons une autre communication, la communication de M. Joël Ashkenazi, sur le thème l'influence des catégories grecques, philosophiques et linguistiques dans la pensée rabbinique. Dimanche, à 13h, à 15h, nous commencerons par une communication de M. Léon Ashkenazi, Manitou, sur le problème du rapport entre les mythes et le midrash. Et ça sera suivi par un débat avec l'ensemble des conférenciers, des participants au séminaire, sur le problème, le fondement de l'obligation morale dans la conscience juive et dans la conscience grecque. D'autre part, chaque matin a lieu le cours sur texte de M. Ashkenazi, de M. le docteur Michel France, sur un ensemble de textes sur Hanouka, plus particulièrement les textes du Maharal de Prague, du Rav Houtner, chaque matin à 10h30. Et cela dit, maintenant, je voulais vous présenter le second numéro de notre revue, la revue du Centre Rashi, la revue d'Agesh. Ce numéro vient de paraître, et il est à la disposition de vous tous. À la sortie, vous pourrez l'acheter. Il y a, entre autres, un article de Jacob Gordan, le célèbre philosophe juif, qui s'appelle « Yehuda Levi et l'hellénisme ». C'est donc un texte qui est très en rapport avec le travail que nous faisons au cours de ce séminaire, et d'autres textes que vous pourrez étudier, qui constituent un reflet du travail qui se fait dans cette maison. Cela dit, je n'ai pas besoin de présenter notre conférencier, qui est véritablement connu de nous tous, M. Joseph Mélène-Modrejewski, est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est historien du droit, et il est un spécialiste de la papyrologie hellénistique. Il est également professeur à la Sorbonne. Et sa spécialité porte sur des textes hellénistiques, et plus particulièrement sur ceux d'Alexandrie, sur lesquels il a longuement travaillé dans le cadre d'une recherche sur les historiens de langue grecque dans le Moyen-Orient. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de commencer ce cycle par une conférence de M. Mélène Modrejewski sur le thème « L'histoire juive vue par les historiens grecs ». Cela est un élément très important dans la mesure où il s'agit vraisemblablement de la première tentative de réinterpréter l'histoire juive à la lumière de fondements différents de ceux du texte biblique. Cela dit, donc, je cède la parole à notre conférencier, M. Mélène Modrejewski, qui va vous expliquer mieux que moi, évidemment, le sens de ce texte.
On va essayer de le faire ensemble. Merci, cher ami. Mesdames, Messieurs, il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de me trouver à cette table à l'occasion d'une soirée qui était intitulée « Ni grec, ni juif », titre d'un recueil publié par notre ami Léon Poliakov. Il y a eu un débat, une vive discussion, dont je gardais d'ailleurs un excellent souvenir. Aujourd'hui, nous reprenons le sujet un peu à l'envers, puisqu'il s'agit de le traiter de manière positive en parlant des Grecs et des Juifs, et c'est pour moi à nouveau un plaisir et en même temps qu'un honneur assez redoutable que d'ouvrir ce séminaire sur la conscience juive et la conscience grecque. Il faut pour commencer insister sur l'étonnante actualité de ce sujet historique. la rencontre du judaïsme et de l'hellénisme, qui remonte à quelques 23 siècles, et qui nous paraît aujourd'hui un sujet d'actualité, non seulement à cause de ses conséquences de la rencontre, le double fondement de la civilisation occidentale, la rationalité grecque et la spiritualité juive, on appelle morale judéo-chrétienne par une sorte de NDIADIS, comme si le christianisme n'était pas autre chose qu'une adaptation du judaïsme. Je laisserai de côté toutes les réflexions que l'on pourrait faire à propos de cette confrontation permanente. Il y a une autre raison de l'actualité de notre sujet, c'est que le problème historique que je dois ici essayer de traiter avec vous nous met en présence pour une première fois d'une situation qui va se reproduire par la suite et qui est mutatis mutandis, celle du judaïsme occidental en général, du judaïsme français aujourd'hui. C'est que pour la première fois à l'époque dans laquelle on portait dans cette présence avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand, des problèmes sont au centre des débats actuels, acculturation, double allégeance, appartenance, participation à l'une et à l'autre culture, de tous ces problèmes importants pour nous aujourd'hui, c'était déjà posé pour les élégués à propos des rapports entre le judaïsme et la culture grecque. Problème, c'est un petit de l'aborder si il faut faire un choix, et ce que nous allons essayer de faire dans l'esprit du séminaire, en nous plaçant résolument au point de vue grec et en posant la question comment les Grecs ont perçu le devenir juif. Peut-être pas tout à fait l'histoire juive, car en fait nous n'avons pas une œuvre grecque qui traiterait de l'histoire juive dans son ensemble. Les antiquités de Joseph ne sont pas une œuvre grecque, mais une œuvre juive en langue grecque. Mais il s'agit de savoir comment les Grecs ont perçu le judaïsme, comment ils l'ont interprété, et ensuite comment les Juifs ont réagi à cette interprétation greca de leur propre situation, de l'image que le monde grec se faisait de leur spécificité. Ce qui nous amènera en définitive à aborder le point crucial, à savoir comment et pourquoi cette rencontre, cette confrontation a dû déboucher sur un conflit. Je commence donc, si vous voulez bien, par le premier volet de ce petit triptyque, les Juifs vus par les Grecs, et je dois tout d'abord préciser le cadre. Je vous ai déjà dit, c'est une histoire qui commence à l'extrême fin du IVe siècle, avec Alexandre le Grand, et c'est pour cette raison qu'il serait vain de chercher une idée sur les Juifs et le judaïsme dans les grands auteurs grecs, les grands philosophes, Platon ou Aristote. Vous, dans Platon, qui a vécu 428-347, qui a vécu donc dans la première moitié du IVe siècle, était né peu après Esdras, et après tout, il aurait pu lire la Torah dans sa rédaction assez récente, à son époque. Mais non, Platon n'a pas lu la Torah, et comment l'aurait-il fait ne sachant pas l'hébreu ? Les Grecs dans l'Antiquité, tout comme la plupart des Français aujourd'hui, ne se donnaient pas la peine d'apprendre les langues étrangères. C'était aux étrangers, aux autres, d'apprendre le grec, langue de culture, pour accéder à cette culture dont les Grecs pensaient avoir un certain monopole. La traduction de la Bible en grec par les Septante qui allaient intervenir près... de la création, visiblement sans avoir lu le récit dans le texte des Septante, mais en reproduisant un témoignage qui lui avait été fourni. Et là, nous sommes à la fin du premier siècle de l'Empire. Les efforts de Philon auront des échos, bien sûr, les efforts de Philon tendant à faire connaître le passé juif au nom juif, auront des échos, mais beaucoup plus tard, avec l'avènement et l'expansion du christianisme. Donc, c'est une connaissance de seconde main que les Grecs avaient du judaïsme. Mais à tout prendre, est-ce tellement différent de ce qu'aujourd'hui un Français moyen, pour ne pas dire un juif français ou un français juif moyen, c'est de la substance du judaïsme. Il y a cependant une série d'énoncés fort intéressants qui forment ce que l'on peut appeler avec cet auteur allemand l'interprétation greca. Je fais allusion à un ouvrage très sérieux du protestant allemand Martin Hengel, Judentum und Hellenismus. Il en existe deux éditions allemandes et une édition en anglais. Ouvrage très solide, sérieux, qui donne, pour ceux qui voudraient avoir davantage d'informations, tous les détails sur ce problème. L'image que la pensée grecque s'était faite du judaïsme dans son devenir historique. J'essaierai de mon côté de vous présenter l'essentiel en me servant de recueils que nous avons heureusement à notre disposition. Et l'un d'eux, c'est le recueil de Théodore Renac, texte d'auteur grec et romain relatifs au judaïsme. Ça remonte à 1895, il y a une réimpression récente. Et le deuxième, qui n'est pas encore achevé, est l'œuvre d'un savant israélien, Menahem Stern. C'est un Renac rajeuni, complété, avec des traductions en anglais, texte Greek and Latin also on Jews and Judaism. Nous n'avons pour l'instant qu'un premier volume de ce recueil, publié à Jérusalem en 1964. 14, et ça va d'Hérodote à Plutarque. Hérodote, je vous ai dit que nous n'avons pas grand-chose dans Platon ni en Aristote, mais nous avons des informations sur...
Voyons donc comment se forme cette image que les textes se font et comment existent les étapes avec leur prolongement en grand conscience. Une première étape, c'est l'admiration, la curiosité admirative. La nuit qui contemple les étoiles, levant les yeux vers celle et les invoquant dans leur prière. Les Juifs descendent des philosophes de l'Inde. Ils voient dans les Juifs les descendants de Brahmin et de Brahman un jour, et les ancêtres spirituels des philosophes de l'Inde, des philosophes grecs de mieux. Il parle d'un juif, c'est le Tiburin, dont il était un grec, non seulement de langue, mais aussi d'âme, suprême compliment qu'un grec me fait. Et il semble que ce soit là le client général de les grecs, de ce que c'est du judaïsme, vers l'an 300 avant l'Antiquité. Opinion qui par avoir été durable, parce que nous en trouvons des prolongements à l'époque des mystiques au cours du 3e siècle, le Hermitos de Smyrne, et des prolongements suivant jusqu'au 3e siècle de l'Empire romain, devant un moteur qui n'est pas dans la recherche, un acte qui n'est pas encore dans la recherche.
Critique du judaïsme, Posidonios d'Apame, Apollonios Molon, tous les textes sont là, si vous voulez, mais je ne pense pas qu'il faille les citer dans le détail. Et puis ça passe à Rome, les Romains reprennent la relève et continuent. Et on trouvera des énoncés de plus en plus critiques ou franchement antisémites chez le poète Juvénal, chez Martial ou chez l'historien Tacite, texte célèbre qu'on avait qualifié avec raison de monument éternellement honteux de l'historiographie ancienne.
Le rite s'excuse par le antisémitisme. Leurs institutions sinistres, honteuses, on se valide par leur peur de ténèbres. La liberté du voisin, nous disons la religion de leur peur, peuvent apporter ce jour la justice de leur conscience. Un qui passait par le péché, outre. Ils ont entre un attachement estime, une considération active, qui contraste avec la haine implacable qu'ils vont au reste des hommes. Jamais, ils demandent, jamais ils se foutent avec des étrangers. Et cette race, soit très portée à la dévotion, s'abstient de tout commerce avec les femmes de son cœur. On en parlera. Ce que leur reproche-t-on au plus sérieusement, en dehors de cursus comme celui-ci, il y a un fait d'accusation principale, un fait d'accusation secondaire, tout le reste n'est que rhétorique ou incidence. Le principal, c'est l'insociabilité des juifs, leur amitié. Le juif ne se mélange pas avec le juif. Et cathédardaire du juif, on dit sous le blanc du ciel, lance le premier l'accusation, et donc reprennent le même. Aussi d'ailleurs la communauté que de toutes les nations, seul le peuple juif refuse d'avoir aucun rapport de société avec son vrai peuple, et les traite tous comme ennemis. Et les sophistes qui obstratent dans sa vie d'Apollonios de Tyane dira que les juifs ne s'insurgent pas seulement contre Rome, mais contre l'humanité tout entière, dont ils ne se séparent que par leur, dont ils se séparent par leur mode de vie asocial. Il eut mieux valu, pense-t-il, ne jamais conquérir ce peuple qui ne partage rien avec ses semblables. Deuxième grief, l'athéisme de Dieu. La chose qui peut vous paraître absurde, mais cela veut dire tout simplement le refus des dieux des autres, des dieux de la cité, d'accueil. C'est de cette même manière que les Égyptiens, peuple le plus vieux du monde avant le Christ, ont pu être traités d'athée par d'autres auteurs, par Philon notamment, à plusieurs reprises. Et là-dessus se greffe tout un folklore mythologique, les fables qu'on se raconte sur les livres, pour reprendre une expression de Joseph. Alors que la fable de la paix des âmes, placée, nous dit-on, par Moïse dans le sein des saints, ou encore la fable du meurtre, commis sous les 7 ans, voyez le rite. Sympathique, me dit, ou chaque année, pourquoi pas, sur la personne d'un étranger préalablement engraissé, dont le juif mange les entrailles. De l'une et de l'autre, comme dit le gérant de l'accusation de haïr le genre humain, vous l'avez entendu tout à l'heure à propos de lui dans le texte de Tacite. On entend aussi, je vous fais grâce du détail de référence, que les juifs sont sales, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont rusés et habiles, servis et séduits, lubriques, austères, accaparèrent et mendiants, à peine leur reconnaissant quelques vertus familiales, comme celle par exemple de jamais exposer leurs enfants nouveau-nés. Le motif le plus intéressant de cette thématique est sans nul doute le récit qui fait défendre le peuple juif des lépreux expulsés d'Égypte par les pharaons. Nous avons là une sorte de contrepartie, de parodie du récit les Jobs. Le thème apparaît pour une première fois chez Hécate d'Abder, dans le cité que je vous signalais tout à l'heure, se gonfle ensuite sous la plume de Manéthon, qui est un auteur égyptien de langue grecque, pour se perpétuer en Égypte, les Égyptiens alexandrins et les Romains. Et c'est très probablement à une reprise, cela qui recherchait l'origine égyptienne de cela qui recherchait l'origine égyptienne d'une partie de celle enseignée dans la littérature espagnole, révélative en ce qui concerne cette généalogie. C'est une autre question que je vais vous poser. Nous n'avons pas à vous interroger sur les origines, les racines de l'antisémitisme espagnol. La question a été traitée dans un volume qui m'apparaît là des prophètes, mais sur lequel j'assure attention, un volume collectif, je peux le dire ici, de l'intérêt de principal de Palin, en l'honneur de l'homme premier corps, qui paraîtra dans la série Bibi. Mais de cette généalogie en peuple du collectif, il est intéressant de voir comment probablement égyptien dans sa source, est empêché par les auteurs grecs et romains, comment il s'amplifie. Tacite, qui associe l'interdit de manger la viande ou le porc, dans le livre tacitienne, dit-il, en souvenir de la lèpre, les tuyas jadis, et dont cet animal était porteur. Voilà donc l'image du tantôt divine, tantôt franchement négative. Quelles sont maintenant les réactions? Acceptez-vous mal pensé? Et il réagit de manière un peu étonnante, mais on va le il y a deux sortes de réactions qui ont il y a deux sortes de réactions actives. On est accusé de ne pas l'être. On essaie d'être plus grec. Alors c'est ainsi, elle a pour se rappeler l'histoire bien connue. C'est ainsi qu'en juillet, au deuxième siècle, un courant réalisateur, un monde, avec les questions que nous connaissons à le premier et le deuxième siècle de Bacabé, une tentative d'ouverture, on veut être moderne, on veut laisser entrer les gens, et donc, les gens qui sont probablement des politiques, des plantes, comme nous avons aimé les lattes, ont vraiment beaucoup trop loin, et ça aboutit à la propagation, la domination de la désolation, faire une fois les absolument venir, et donc nous connaissons les gens qui sont des politiques, des professeurs, de manière hospitalière dans le temple de Jérusalem. On sait aussi comment cela a fait terminer l'intervention du roi Antiochos Épiphane, la révolte des Maccabées. On a beaucoup discuté sur les responsabilités. Question fort délicate pour le professeur Zuckerman que nous disions à l'instant. Le roi Antiochos ne pouvait pas faire
de ce qui allait se passer à Jérusalem, la persécution, les décrets interdisant le culte juif, disciple des épicuriens, cet homme était incapable de fanatisme religieux. On peut se poser la question, pourquoi Jason et Ménélas, tout aussi pénétrés de culture grecque, auraient-ils été plus barbares, plus fanatiques que le roi grec? On en discutera encore. Je n'insiste pas sur cet aspect du problème. Je l'évoquais parce qu'il fait partie des réactions juives dont je voulais parler à propos de l'image grecque du judaïsme. Deuxième série de réactions, réactions psychologiques, la peur juive. Les juifs ont peur, aussi grecs, parfois même plus grecs que les grecs eux-mêmes, ils sont conscients du danger. Ils sont conscients du danger, et là c'est le thème du danger et du salut qui arrive in extremis, que nous trouvons dans la littérature juive de cette époque, qui est une littérature de langue grecque, en langue grecque, en raison du très grand degré d'hellénisation des juifs aussi bien dans la diaspora qu'en Judée, et qui commence avec le livre de Daniel pour se perpétuer jusqu'au lendemain de la révolte de Bar Kokhba. Vous connaissez aussi bien que moi les pièces principales de cette littérature, comme le livre d'Esther ou le troisième livre de Maccabée, un génocide évité de justesse grâce à la providence divine qui, en l'occurrence, nous apparaît sous la forme du charme féminin de la reine Esther, ou encore le même danger, même salut dans cette très édifiante histoire que nous raconte le troisième livre des Maccabées, où nous voyons les Juifs d'Égypte entassés sur l'hippodrome d'Alexandrie par un roi qui pourrait être aussi bien Ptolémée IV Philopator que Ptolémée VIII Fiscon le Ventru. Je crois que c'est plutôt Ptolémée VIII, mais ça c'est une longue histoire qui n'a pas un grand intérêt pour vous. Des Juifs entassés donc qui vont être d'un moment à l'autre écrasés par un troupeau d'éléphants enivrés. Ils sont sauvés in extremis par une apparition mystérieuse, miraculeuse, qui détourne au dernier moment les éléphants, les lançant sur la troupe et sur les badauds. Et cette histoire, finalement, ces thèmes de la littérature apocalyptique nous donnent comme un complément de l'image du judaïsme que nous trouvons dans la littérature grecque. Un pressentiment malheureusement juste, parce que cela va se terminer très mal avec la conquête romaine par les soulèvements juifs en Eretz Israël qui se termineront par la destruction du temple, par la grande révolte juive en 115-118 dans la diaspora, en Égypte, en Cyrénaïque, en Mésopotamie, et avec le tragique épilogue, héroïque et tragique épilogue de la révolte de Bar Kokhba. Et cela nous permet d'aborder le troisième point: quel était le fond du conflit, quelle a été la raison, pourquoi de l'admiration qu'un théophraste proclamait pour le judaïsme, en arrive-t-on au désastre, à l'extermination, en passant par des moments aussi pleins de suspense que le génocide évité de justesse dans le livre d'Esther ou l'histoire des éléphants de Ptolémée Fiscon. Il faut insister ici sur un point qui me paraît très important, la contradiction profonde entre l'intégration sociale et culturelle du juif dans ce monde dominé par la culture grecque, d'une part, et son extranéité religieuse, d'autre part. Intégration aussi rapide que totale, dans la langue d'abord. L'araméen est très vite abandonné. Nous avons dans la nécropole juive d'Alexandrie des inscriptions votives de textes en araméen, et puis le grec prend le dessus dès le début du IIIe siècle. Seul le mot « shalom » figure en lettres hébraïques dans des textes écrits en grec. Il y a les papyrus grecs d'Égypte, textes écrits par des juifs dans différentes circonstances de la vie quotidienne, lettres, contrats, requêtes adressées aux autorités qui témoignent de cette acculturation. Il y a aussi la Bible des Septante que je mentionnais à l'instant. Bien sûr, je sais qu'elle pose des problèmes. Qui avait pris l'initiative de la traduction? Elle est quand même là pour témoigner aussi bien de l'acculturation linguistique, de l'assimilation linguistique du juif d'Égypte, que du haut degré d'hellénisation de la Judée elle-même, d'où le roi Ptolémée Philadelphe fait venir les 72 traducteurs. Il devait savoir aussi bien le grec que l'hébreu pour faire le travail qui leur a été confié. Intégration sociale, totale. Il n'y a pas de métier juif, comme dit Arnaldo Momigliano dans un livre intitulé « Sagesse barbare », version française d'une série de conférences publiées auparavant en anglais en allemand, et qui comporte deux chapitres savants et attachants sur les Grecs, les Juifs et les Romains, il n'y a pas de métier dans lequel les Juifs aient pu se spécialiser en se rendant, pour cette raison particulièrement haïssable aux Grecs. Même dans le domaine du droit, on constate une hellénisation qui va très très loin. Je ne veux pour preuve que tel acte de divorce d'un couple juif d'Alexandrie à l'époque d'Auguste, où l'on voit ces gens recourir à un formulaire grec de divorce par consentement mutuel, d'une manière absolument contraire à tout ce que la Torah et puis la doctrine rabbinique avaient statué en matière de divorce. Et avec cela, il y a quand même une limite, limite à l'intégration qui passe par la fidélité avec laquelle les Juifs restent attachés à leur religion ancestrale, aussi hellénisé qu'il soit. Aussi hellénisé qu'il soit, le juif se sépare du grec, et les païens n'ont pas tout à fait tort de le lui, peut-être non pas de le lui reprocher, mais de le constater. Il se sépare du grec sur le plan religieux, car c'est à ce prix qu'il maintient son identité. Que resterait-il du juif qui a déjà abandonné, qui a déjà adopté la langue et le mode de vie des gentils, s'il abandonnait encore la circoncision, le repos sabbatique, s'il partageait avec le grec sa nourriture et s'il épousait sa fille. Mais, refusant tout cela, le juif se place dans une situation insolite et qui devient source de conflit. Le séparatisme limité à ces questions fondamentales heurte de front les règles de vie en société que le monde hellénistique a hérité de la cité grecque classique. Les Juifs prétendent partager avec les Grecs les bénéfices de ce mode de vie. Ils veulent être citoyens, hommes de cité, tout en refusant de participer aux cultes qui en sont inséparables et en se soustrayant aux charges qu'implique cette participation. Être partie prenante dans un monde qui a son système de valeurs, le système qui perpétuant les traditions de la cité, et vouloir en même temps conserver intacte une identité religieuse étrangère à ce monde, est une revendication qui est peut-être tout à fait naturelle pour le juif, qui est inacceptable pour le grec. D'après tout, on le comprend. Il n'est pas possible d'être à la fois citoyen et différent. Autrement dit, l'hostilité envers les juifs dont témoigne les textes grecs, cette hostilité qui pèse lourdement sur l'image que la conscience grecque se faisait du judaïsme dans la perspective historique, ne vient pas seulement de ce que les juifs sont simplement étrangers au monde païen. Elle se nourrit d'une altérité qui à l'intégration culturelle et sociale oppose l'écran de l'isolement religieux. Et nous avons le texte juif qui insiste sur la nécessité de cette séparation afin d'éviter la souillure. Le traité Mishnaïque Avodah Zarah en est plein. Et finalement, donc, la morale de cette histoire, bien que l'histoire ne soit pas faite pour nous donner des leçons de morale, serait peut-être, mais là je m'avance très prudemment et avec beaucoup de réserve, vous me direz ce que vous en pensez. La conclusion, ce serait donc peut-être qu'il est impossible d'être à la fois entièrement à 100% grec et juif. L'un et l'autre. Pour réunir deux qualités en une identité, il faut ranger sur l'une ou sur l'autre. Il faut laisser la place à la nécessaire jointure, sans laquelle il n'y a pas de double personnalité, sans laquelle on n'est ni l'un ni l'autre, mais non pas les deux. C'est...